lire deux textes. Un texte que nous avons lu le dimanche passé, et je vais le compléter avec un autre. C'est donc le premier dans Hébreux. Hébreux, chapitre 12, nous lirons du premier jusqu'au troisième verset. Hébreux chapitre 12, du premier jusqu'au troisième verset. Est-ce que quelqu'un sait que Jésus revient bientôt? Quelqu'un vraiment est convaincu que Jésus revient bientôt? Si tu le sais, si tu es convaincu de cela, tu ne peux pas vivre comme n'importe qui, vivre n'importe comment. Jésus revient. Que tu le veuilles ou pas, que tu le crois ou pas, Jésus revient. Hébreux chapitre 12 nous dit, nous donc aussi, bisopé. Ça veut dire que, comment on dit en swahili, nous aussi. Nassi et tout. Il faut de temps en temps me lancer des mots comme ça. Alléluia. Comment on dit ça en kikongo? Beto. Betompe. Alléluia. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement les gens dont il est écrit ici dans la Bible. Je parle à quelqu'un. Il ne s'agit pas simplement de Paul, il ne s'agit pas simplement de Pierre, il ne s'agit pas simplement des gens. Toute personne qui lit ça est dedans. Il dit, nous donc aussi, nous aussi. Alléluia. Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la voie qui nous est ouverte. Dans certains textes, on dit dans la carrière. Est-ce que je peux avoir les ventilateurs orientés vers ici, s'il vous plaît? Dans la carrière qui nous est ouverte, verset 2, ayons les regards sur Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée, disons tous Amen. Deuxième texte, 1 Corinthiens, chapitre 9, première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, Hébreux c'est un peu plus loin, Corinthiens c'est un peu plus tôt, un peu plus en arrière ou en avant, un peu plus devant, c'est plus juste de dire un peu plus devant. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. La Bible dit, ne dit pas, mais eux qui le fassent, mais nous, alléluia, mais nous, toi et moi, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Dites Amen. Nous allons continuer notre thème de dimanche passé. Si vous vous rappelez bien, le thème c'était « Alléger votre vie ». C'est-à-dire, rendez votre vie légère, pépélée. Amen. Alléger, allégeons nos vies. Pourquoi nous avons dit cela? Pourquoi la Bible dit-elle cela? Il faut le comprendre à travers les images que la Bible utilise pour décrire la vie chrétienne. La Bible dit que la vie chrétienne est une marche. Alléluia! C'est une marche. La vie chrétienne, nous avons dit une deuxième image, une deuxième comparaison, c'est que c'est une course, comme nous venons de le lire ici dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Mais quand nous lisons ailleurs, on nous dit également que la vie chrétienne est comparée à une nage, à une navigation sur les eaux des mers et des océans. Mais aussi, la vie chrétienne est comparée à un envol. Alléluia. Je voudrais nous dire ceci, mes bien-aimés frères et sœurs. La vie chrétienne est tout ce que nous venons de dire, sauf être une promenade. Vous savez, quand vous vous promenez, quand vous dites « je vais aller faire une promenade », ça veut dire que vous allez errer un petit peu au hasard. Vous allez là-bas, dans un parc, vous n'avez pas défini précisément votre itinéraire et votre but. Vous allez vous promener, vous regardez le fleuve, vous regardez les gens qui passent, vous vous asseyez quelque part à la gare pour voir comment les trains partent et entrent en gare. Vous quittez là-bas, vous allez et vous dites, vous rentrez chez vous le soir et vous dites, j'ai été me promener. Ce n'est pas quelque chose de tout à fait précis. Mais la vie chrétienne, c'est une marche. Dites Amen. Vous savez, chacune de ces descriptions, une marche, une course, la natation, la nage ou l'envol, chacune de ces images nous montre que la vie chrétienne inclut le mouvement et l'endurance. Le mouvement et l'endurance. Il n'y a pas de vie chrétienne s'il n'y a pas de mouvement. La Bible nous dit que nous recevons de Dieu la vie, le mouvement et l'être. Quand nous vivons, nous bougeons. Dites Amen. Quand nous bougeons, c'est que nous vivons. Lorsque quelqu'un meurt, il ne bouge plus. Ça veut dire qu'il y a absence totale de vie. La vie chrétienne, c'est une vie qui exige, qui inclut le mouvement. Mais pas n'importe quel mouvement. Vous savez, un mouvement peut être désordonné. Il y a des mouvements qui sont désordonnés. Il y a des mouvements qui vont dans tous les sens. La vie chrétienne est un mouvement, mais un mouvement qui nous porte vers l'avant et non vers l'arrière. C'est un mouvement qui nous porte vers le haut et non vers le bas. C'est un mouvement qui nous permet de quitter certaines rives pour aller vers d'autres rives. Comme le Seigneur avait dit ce jour-là à ses disciples, passons de l'autre côté du rivage. Traversons la mer. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Philippiens au chapitre 3, c'est un texte que vous connaissez. Il dit ceci, ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix. C'est-à-dire, ce n'est pas que j'ai atteint un certain niveau, je peux m'arrêter. Ou je peux dire, je ne peux plus faire des progrès. Il dit, moi, ça, l'apôtre Paul écrit cela vers la fin de sa vie. Et je ne crois pas que toi et moi, nous pouvons égaler l'apôtre Paul quand il dit cela. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. ou que j'ai déjà atteint la perfection. Lequel au milieu de nous ici a atteint la perfection? Lequel au milieu de nous ici peut dire, je suis arrivé à la ligne d'arrivée? Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, pour tâcher d'avoir le prix, puisque moi-même j'ai été aussi saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia! Comme je venais donc de vous dire, la vie chrétienne, Paul dit « je cours », c'est-à-dire ça exclut l'absence de mouvement. Quand les enfants d'Israël sont arrivés sur le mont Sinaï, vous savez que Dieu s'est révélé à eux. Dieu s'est manifesté à eux d'une manière extraordinaire. À un moment donné, les enfants d'Israël ont pensé que c'était là les lieux où ils devaient rester indéfiniment, parce qu'ils avaient vu la manifestation de la puissance de Dieu, ils avaient entendu la voix de Dieu. Mais quand ils sont restés là pendant un certain temps, Dieu leur a parlé, leur a dit, « Levez-vous, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Moi, dans ma conception de votre Dieu créateur, lorsque vous êtes restés quelque part, parce qu'il y a des moments où nous avons besoin de repos, mais nous ne restons pas là, c'est que Dieu veut, c'est que nous nous levions, que nous nous mettions en mouvement et que nous allions encore vers l'avant. C'est comme ça que Dieu leur a dit, si vous lisez votre Bible, dans Deutéronome, au chapitre 1, verset 6, je voudrais qu'on lise ensemble, Deutéronome, chapitre 1, verset 6, Dieu leur a dit ceci. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Deutéronome, chapitre 1, à partir du verset 6. Prenez simplement la référence parce que je vous lis de toute façon le texte. Deutéronome 1, 6. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Boumelika, la bofandi mingi, esikawana. Vous êtes assis trop longtemps en ces lieux-là. Écoutez le verset 7, il dit, tournez-vous et partez, mettez-vous en mouvement, allez à la montagne des Amoréens et dans tous les voisinages, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans les midis, sur les côtés de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, etc., etc. Alléluia! Ça exclut le fait que tu restes le même d'année en année. Dieu te dit, tu as été le même depuis des années. Lève-toi et va de l'avant. Tu as assez demeuré dans cette situation. La vie chrétienne exclut une vie de surplace. La vie chrétienne exclut également le fait de quoi? De regarder en arrière, frères et sœurs. Nous sommes sortis d'Égypte. Nous avons quitté le monde. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons compris que le monde ne peut rien pour nous. Parce que nous avons compris que tout ce qu'il y a dans le monde passera. Parce que nous avons compris que les choses du monde ce sont des illusions. Ce sont des choses trompeuses. Nous, ce que nous cherchons, c'est quelque chose de durable. Nous sommes sortis d'Égypte. Alors la Bible nous dit, dans notre mouvement vers l'avant, dans notre marche vers l'avant, dans notre course vers l'avant, dans notre envol vers le haut, nous devons éviter de regarder en arrière. Alléluia. Regardez. Pas retourner, je parle d'abord de regarder. C'est comme ça que nous voyons les enfants d'Israël. Ils allaient vers la terre promise, mais leur cœur était encore en Égypte. Ils regardaient sans cesse en Égypte à la moindre difficulté. Oh, quand nous étions en Égypte, combien d'enfants de Dieu dans leur vie chrétienne, quand il y a quelques difficultés, il vous dira, oh, moi quand j'étais dans le monde, devant cette situation, mais c'est un petit problème. je fais ça, je fais ça, et puis j'ai la solution. Il est en train d'avancer vers le pays de la promesse en ayant les regards tournés vers l'arrière. La Bible nous dit, souvenez-vous de la femme de Lot. La femme de Lot n'est pas rentrée dans le pays de Sodome et Gomorre, pas du tout. La femme de Lot a juste regardé en arrière vers le pays de Sodome et de Gomorre. Et la Bible nous dit dans Genèse au chapitre 19, la femme de Lot est devenue une statue. Parce que dans la vie chrétienne, il est exclu de regarder en arrière. Alléluia. Je ne peux pas parler de la vie, dans ma vie présente, de la nostalgie de la vie passée. Oh, quand j'étais païen. Vous savez, il y a des gens, quand ils parlent de sa vie passée, c'est comme s'ils voudraient vraiment revivre cette vie-là dans le temps présent. Oh, quand j'étais païen. Oh, quand j'étais païenne. Bah, Johnyonso, tous les garçons, je savais comment les manipuler. Non, ma sœur, tu es devenue une nouvelle créature. Tu es dans un mouvement qui te porte vers l'avant. Ce mouvement t'interdit de faire du surplace. Ce mouvement t'interdit même de regarder simplement en arrière parce que la femme de l'autre est devenue une statue simplement en regardant en arrière. Alléluia. Ce mouvement vers l'avant, comme nous avons dit le dimanche passé, exclut également le fait que nous rentrions dans le monde, que nous retournions dans le monde. Combien de gens sont devenus des chrétiens, mais après un an, après deux ans, après trois ans, parce qu'ils n'ont pas compris véritablement quel était le but de leur appel. Alléluia. Je vais vous dire une chose, mes bien-aimés frères et sœurs. Le fait pour nous de devenir chrétiens n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire, je deviens chrétien et tout me tombe, c'est fini, j'y suis. Ce n'est pas, nous ne devenons pas chrétiens pour avoir toutes les bénédictions de la terre. Nous en avons besoin. Mais nous devenons chrétiens parce que nous savons où nous allons. Parce que nous avons compris que le monde va passer. Et qu'un jour, chacun de nous aura à rendre des comptes à Dieu. Et qu'un jour, Dieu dira à certains, éloignez-vous de moi et allez dans le feu de la géhenne. Et à d'autres, entrez dans la joie de votre maître. À ceux-là, parce qu'ils auront cru en Jésus-Christ, qu'ils auront combattu les bons combats, malgré l'adversité, malgré l'opposition, malgré les attaques de toute nature, ils ont tenu bon parce qu'ils savent que la vie sur la terre est courte, mais le temps qu'ils passeront auprès de Dieu, c'est toute l'éternité. Je vais vous dire une chose. Nous n'aurons pas, écoutez-moi bien, nous n'aurons pas toutes les bénédictions que nous voudrons. Alléluia. Alléluia. Ça va vous paraître bizarre, mais c'est comme ça. La Bible n'a jamais dit, si tu veux une villa à Scotland, tu l'as. Si tu veux un jet privé, prie, tu l'auras. Il y a des choses que nos cœurs convoiteront, mais que nous n'aurons point. Mais qu'importe que nous les ayons ou pas, je me maintiens dans la foi. Et je continue ma course parce que je sais une chose. Alléluia! Quand j'arriverai au bout de ma course, quand je franchirai la ligne d'arrivée, quand la porte du ciel me sera ouverte, oh, quelle félicité, quelle joie m'attend. Pour ça, je ne veux rien manquer au monde, même si je ne suis pas béni comme je voudrais l'être, même si je ne reçois pas telle ou telle ou telle chose. Oh, alléluia! Je continuerai ma course parce que je sais qu'une couronne incorruptible, une couronne formidable m'attend dans ces lieux de félicité, dans ces lieux de joie, dans ce pays beau, dans ce pays merveilleux. Alors, je continuerai ma course. Alors, je continuerai ma marche. Alors, je continuerai à prendre toujours l'envol. C'est peut-être un évangile difficile, mais c'est la vérité. Si l'évangile qui vous est prêché, c'est toujours l'évangile de la prospérité, un jour, vous allez rentrer en arrière. Si l'évangile qui vous est toujours prêché, c'est toujours l'évangile des miracles, c'est toujours l'évangile des guérisons. Les jours où il n'y a pas miracle, les jours où il n'y a pas guérison, vous allez rentrer en arrière. Je crois dans un Dieu des miracles. Je crois dans un Dieu des guérisons. Je crois dans un Dieu tout-puissant. Mais même si, vous savez, Dieu fait les choses selon sa volonté souveraine. Nous lui demandons, nous combattons et il nous bénit. C'est vrai. Mais s'il ne m'a pas béni ou s'il ne m'a pas encore béni, je continue ma course. Alléluia. Parce que la vie chrétienne m'empêche de retourner en arrière. Dans 2 Pierre au chapitre 2, la Bible dit « Ne soyez pas comme des chiens qui, après avoir vomi, retournent à leur vomi. » Lesquels d'entre nous ici peut vomir? Et puis il a faim vers 14 heures et le vomi est là. Il dit « C'est pas grave. C'était du fumbo que j'aime bien. » Je parle à quelqu'un? Même si c'est l'aliment, le plat que tu aimes le plus. Vous savez, il y a des gens, quand il est devant les madessous, ils font. C'est-à-dire, il aime tellement ça. Mais imaginez, vous avez mangé les madessous, mais vous avez vomi, n'est-ce pas? D'ailleurs, la première des choses, vous n'allez pas laisser votre vomi comme ça. Parce que ça sent mauvais, vrai ou faux? Imaginez que vous avez laissé votre vomi. Et puis, à un moment donné, vers 16 heures, vous avez vraiment faim. Et vous regardez tous ces haricots-là. Et vous dites, mais c'est pas grave. C'est que les haricots que j'ai mangés. Ah, attends, je me lave encore les mains. Est-ce que nous faisons ça? La Bible dit, quand nous retournons en arrière, après avoir reçu la connaissance, après avoir reçu la révélation, après avoir entendu la parole de Dieu, quand nous avons vomi l'impudicité, quand nous avons vomi l'adultère, quand nous avons vomi le vol, la kleptomanie. Vous savez ce que ça veut dire que la kleptomanie? C'est le fait de voler même. C'est comme. C'est une maladie qui consiste à voler. Et tu voles tout. Alléluia. Même si c'est une aiguille que tu trouves là, ton cœur te dit, prends ça. Tu voles. Je parle à quelqu'un. Mais un jour, quand tu as reçu Jésus, tu as reçu la lumière. Jésus t'a rendu libre. Alléluia. Jésus t'a dit, cours après moi. Marche après moi. Et tu as commencé à courir. Oh, j'aime ça. Alléluia. Et tu as commencé à marcher après le Seigneur ou avec le Seigneur. Et puis, à un moment donné, tu dis, non, Seigneur. Moi, j'ai commencé à te suivre parce que j'avais besoin de quelque chose que tu ne m'as pas encore donné. Et comme tu ne m'as pas donné, je vais rentrer dans le monde. La Bible nous dit que celui qui fait ça est comme un chien qui retourne à ce qu'il a. La Bible nous dit que celui qui retourne en arrière est comme un cochon. Vous connaissez les cochons? Les ngoulous. Les cochons aiment la boue. Dans la boue, il se sent bien. Parce que là, c'est comme une espèce de bain qu'il prend. Il y a des gens qui n'ont jamais vu les cochons prendre un bain. Un bain bon. Un bain bien pour les cochons. Ce n'est pas dans l'eau véritablement. C'est dans la boue. Alléluia. Alors là, il s'agite. Il se vautre dedans. Et tu vois toute la boue couvrir la surface de son corps. Mais ce n'est pas ça véritablement le bain. Vous savez que nous aussi, nous étions dans ce genre de bain quand nous étions dans le monde. Vous savez quelles histoires dans lesquelles nous vautrions, nous pataugions, nous étions dedans quand nous étions dans le monde. La boue, la saleté, la crasse. Mais un jour, Jésus m'a parlé. Alléluia. Un jour, Jésus m'a appelé, il m'a dit, mon fils, ce n'est pas ça le bon bain. Viens, je vais te laver, même pas avec l'eau du robinet. Je vais te laver par le sang précieux de mon fils. Le sang véritable, sans tache. Et j'ai dit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur t'a lavé. Et le Seigneur t'a purifié. Et tu es devenu blanc. Et tu as revêtu de vêtements blancs, de fin lin. Et tu as commencé à marcher avec le Seigneur. Et parce qu'un jour, il y a combat, il y a difficulté, tu dis, Seigneur, moi je t'abandonne. Je vais retourner en Égypte. Tu es comme un cochon qui, après avoir été dans la boue, après s'être lavé, revient dans la boue. Lequel d'entre nous peut accepter cela? Voyez mes bien-aimés frères et sœurs.
Le jour où tu as accepté Jésus, où tu as commencé à entendre la parole de Dieu, il y a des choses qu'on t'a enseignées. Alléluia. On t'a dit, mentir, c'est péché. Et tu as dit un jour, Seigneur, donne-moi de dire les choses selon la vérité. Amen. Et un jour, tu as entendu courir les rues, les femmes ou les hommes comme ça dans la rue, c'est de l'impudicité. Tu as entendu ça et tu dis, Seigneur, je te donne ma vie, je te consacre ma vie. Jusqu'au jour où Dieu, tu me donneras ma femme, tu me donneras mon mari. Je me garde, Seigneur. Je veux marcher dans la crainte de ton nom, dans la sanctification. Un an, deux ans, trois ans après, tu retournes à ce que tu as vomi. On te retrouve dans des coins de rue, avec parfois des gens bizarres. Alléluia. Vous savez, les gens qui voient nos jeunes filles dans des coins de rue sombres, là, sont souvent bizarres. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que la lumière est venue chez les hommes. Mais parce que les œuvres des hommes étaient mauvaises, ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Quand quelque chose n'est pas bon, on préfère se cacher. Mais quand quelque chose qui est bien, on préfère le mettre en lumière pour que tout le monde voit. Ce qui fait que chaque fois que tu es en train de faire quelque chose dont tu es conscient, que s'il y a quelqu'un qui te surprend, tu vas te gêner, c'est que tu es déjà dans le péché. Je parle à quelqu'un. Quand tu es en train de faire quelque chose, tu entends quelqu'un entrer et vite, vite, tu caches, c'est que tu es dans le péché. Pourquoi? Parce que si c'est quelque chose qui est bien, tu vas même dire à cette personne, hey, « frère et moi, viens voir ce que je regarde ici. On est en train de louer le Seigneur, alléluia. Il y a une émission qui passe ici sur Internet. On est en train de chanter pour la gloire de Dieu, frère, viens voir. » Mais quand tu entends les pas du frère Emma, coum, 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 tu fermes ton ordinateur, c'est que tu étais en train de faire quelque chose qui est déjà péché. Et donc tu es retourné en arrière. Et la vie chrétienne, ce n'est pas de retourner en arrière. Je parle à quelqu'un. Il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant vers le lieu. Vers la destination que Dieu veut que nous atteignions. Il faut monter des niveaux, vers les niveaux que Dieu veut que nous atteignions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut marcher de progrès en progrès. Ce n'est pas faire du surplace, ce n'est pas regarder en arrière et carrément retourner en arrière, mais c'est aller vers l'avant. C'est prendre l'envol, c'est marcher de progrès en progrès. Ça veut dire que ta foi doit progresser. Ton espérance doit grandir. Car au fur et à mesure que tu entends la parole de Dieu, ta foi fait des progrès. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois dans ta vie chrétienne dire, non, je ne peux pas me limiter qu'à la connaissance ou à la lecture de Genèse chapitre 1er. Je veux chaque jour de ma vie lire une portion des Écritures. Chaque jour de ma vie, je veux quitter Genèse pour aller dans Exode. Exode à 1 Pierre, 2 Pierre. Je veux aller de progrès en progrès dans la connaissance de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens dans les églises qui n'ont jamais lu la Bible d'une manière systématique de Genèse à Apocalypse. Ils lisent un petit peu là. Un petit peu là, un petit peu là. Prenez un roman, mes bien-aimés frères et sœurs. Lisez un roman, vous lisez à la première page, vous sautez 20 pages, vous lisez à la 18e, 22e page, vous sautez, vous lisez la conclusion, l'histoire va vous échapper. Vous la lisez systématiquement. La connaissance de Dieu va venir à partir du moment où tu lis, tu fais des progrès dans la lecture de la parole de Dieu. Quand les situations difficiles viendront, le Saint-Esprit qui sonde les cœurs, sondera ton cœur, prendra la parole que tu as lue et même que tu as oubliée dans ton esprit, il ramènera cette parole en esprit et la parole viendra dans ta bouche et tu la proclameras en disant à Satan, « Il est écrit !» Et c'est comme ça qu'on a la victoire. Donc la vie chrétienne, c'est un mouvement vers l'avant. La connaissance de la parole de Dieu doit grandir. Ta vie de consécration doit aller de progrès en progrès. Ta vie de sanctification doit aller de progrès en progrès. Parce que c'est un mouvement qui te porte vers l'avant, vers le haut. Alléluia. 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 Ta vie de prière, ta vie de prière doit aussi s'améliorer. Ta vie de prière. Au début, tu priais 2 minutes. Avant de, vous savez, comme disait le pasteur Fofi, et je le crois fermement, il y a beaucoup de gens dont la vie de prière se résume à bénir le repas. La plupart d'entre nous ici, je ne crois même pas, je crois même la quasi-totalité de nous ici, chacun de nous ici, quand nous voulons prier, quand nous voulons manger, nous prions. Vrai ou faux? Ah, si tu ne pries pas, alors je me suis trompé, hein? Qui mange sans avoir prié? Qui? Levez votre main. Je ne crois pas. Alléluia. Mais vous savez, il y a des gens qui croient que la prière se résume au moment où il doit manger. Seigneur, merci de nous avoir donné ce repas. Bénis ce repas, sanctifie-le. Tout ce qui est tout là des mauvais, Seigneur, sanctifie le sang de Jésus. Amen, je chasse les démons. Amen, amen. Le reste du temps, il ne prie pas. Chaque jour, comme la vie chrétienne est une marche vers l'avant, est une course vers l'avant. Aujourd'hui, tu priais 2 minutes. Demain, tu apprends à prier un peu plus. Dites amen. Dans les mois, dans les années qui viennent, tu apprends à passer un peu plus à la vitesse supérieure. Ça ne veut pas dire que systématiquement, quand tu pries, tu dois prier 8 heures ou 4 heures ou 5 heures. Mais tu es exercé, non plus simplement à faire le signe de la croix. Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, protège-moi parce qu'il y a des démons qui risquent de m'attaquer. Bioum, non! Tu t'élèves aujourd'hui, tu as fait ça. C'est une bonne chose, c'est un bon début. Mais dans les jours qui viennent, parce que c'est une marche vers l'avant, tu apprends à passer un peu plus de temps dans la prière. Un peu plus de temps. Alléluia! C'est comme dans les jeûnes. Ne commence pas à jeûner comme des gens qui ont cet exercice depuis longtemps. Si tu entres dans le rythme de jeûne avec moi, je suis presque certain que tu vas te fatiguer. Alléluia! Alléluia! Ne commence pas, ne suis pas les autres. Tu fais une demi-journée de jeûne. Si tu n'as jamais fait les jeûnes, commence par une demi-journée. Tu dis, je mangerai vers 15 heures. Alléluia. Alléluia. Et puis là, tu sens vers 11 heures déjà. Ça chauffe. Alléluia. Vous savez, quand vous n'avez pas décrété les jeûnes, vous allez tenir jusqu'à 15 heures. Mais parce que vous avez décrété le jeûne, ça devient un combat. Vers 11 heures, l'estomac te dit, là, je n'en peux plus. Et tu commences à négocier. Tu lui dis, mais attends un peu, vers 11h30. Il te dit, non, 11h15. Et à 11h15, non, tu arrêtes. Ce n'est pas grave, tu as quand même tenu bon. La deuxième fois, tu te dis, non, je dois faire plus. Cette fois-ci, je tiendrai à 15 heures. Il fait la discussion avec toi vers 14h30. Et petit à petit, tu es en train de t'exercer. Nous allons revenir. Alléluia! Tu vas voir un jour, tu auras jeûné du matin au soir sans que ça devienne une véritable guerre. Et puis après, c'est un jour, c'est 2 jours, c'est une semaine, c'est 21 jours. Alléluia! Tu vas de progrès en progrès. Là, tu peux dire que tu es en mouvement. Parce que c'est ça la vie chrétienne. Alléluia. Ton caractère doit s'améliorer, être transformé de gloire en gloire pour ressembler à Christ, pour devenir selon la stature de la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est ça le but pour lequel d'ailleurs Dieu a donné les ministères dans l'Église, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les enseignants, les docteurs. C'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour un processus qui va de mieux en mieux, de gloire en gloire, jusqu'à ce que quand tu te tiens quelque part, tu parles, on peut dire celui-là, c'est un enfant de Dieu. Ta manière de t'habiller. Alléluia. Voyez, quand vous avez une sœur qui vient de donner sa vie à Jésus, vous allez voir comment elle s'habille. N'est-ce pas? Laissez-la calme. Il ne faut pas aller lui dire, ma sœur, sors de l'église. Ce n'est pas comme ça. Laissez-la. Donnez-lui des conseils gentiment, calmement, au fur et à mesure qu'elle entend la parole de Dieu. Vous allez voir, il y a des choses, elle commence à se regarder et dit, non, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Alléluia. Ça, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Moi, je connais des sœurs qui avaient des robes qui coûtaient cher quand elles étaient des païennes. Quand elles sont devenues enfants de Dieu, bien que ces robes coûtaient cher, ce n'était pas bien séant pour elles de porter ces tenues-là. Mais personne ne leur avait dit de les donner à d'autres ou de les jeter ou de je ne sais quoi, mais simplement parce que la lumière est venue les éclairer. Elles avaient compris que leur corps était le temple du Saint-Esprit de Dieu et que ce corps en tant qu'enfant de Dieu était un lieu de l'habitation, l'adresse même de Dieu. Il fallait donc bien couvrir le corps. C'est ça la vie chrétienne. Un mouvement qui te porte vers l'avant, vers la statue de la personne de Jésus-Christ pour que nous puissions lui ressembler. Alléluia. Voyez la marche, la course, l'envol, la nage, mais vers un but. C'est pas au hasard. Vers un but, vers une destination bien déterminée. Et donc, si tu veux bien courir, si tu veux bien marcher, si tu veux bien prendre l'envol, si tu veux bien nager, la Bible nous dit, Hébreux 12, rejetons tout fardeau. Alléluia. Dites amen. Il dit, si tu es chargé, tu n'arriveras pas à destination. Tu n'atteindras pas le but. Si tu veux bien nager, si tu veux bien prendre l'envol, si tu veux marcher avec endurance et persévérance. Alléluia. Alléluia. Quand j'étais encore jeune, on faisait avec mes parents des voyages de 50 kilomètres. On quittait un petit village, je ne vais pas le donner de nom, et on allait vers un grand village où il y avait l'électricité, il y avait un peu plus de tout. 50 kilomètres, c'était parfois pour aller acheter des fournitures scolaires. Alléluia. La rentrée des classes. Et là, comme il n'y en a pas de petits magasins, vous allez faire 50 kilomètres à pied. Vous quittez vers 5 heures du matin. Vous savez ce qu'on emportait? On emportait 3 petits plats superposés, les uns sur les autres comme ça. Premier petit plat, il y avait le riz. Deuxième petit plat, le riz. Troisième petit plat, le pondou mélangé avec un peu d'œuf. C'était tout ce qu'on emportait parce que 50 kilomètres à pied, ce n'est pas donné à tout le monde. On ne s'encombrait pas des grosses valises, des grosses histoires parce que vous allez vous fatiguer en cours de route. On prenait l'essentiel pour parcourir, pour faire ce voyage. Et on arrivait parfois à 17h, 18h. Maman Henriette peut savoir ce que je dis. Alléluia. Quitter le village. Odimba, vers Tchoumbe. 50 kilomètres, mes bien-aimés frères et sœurs. Vous ne prenez que l'essentiel. Je parle à quelqu'un. Quand nous marchons dans la vie chrétienne, encombrés, avec des paquets sur nos dos, avec des paquets, je dirais plus, dans nos cœurs, nous n'arriverons jamais à franchir la ligne d'arrivée. Quand nous voulons entrer dans une course avec des paquets, c'est pourquoi la Bible dit, rejetons, nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, et que nous devons nous engager dans la course qui nous est ouverte, la carrière qui nous est ouverte, la vocation qui nous est adressée. Si nous voulons bien courir et franchir la ligne d'arrivée et atteindre le but, Dieu dit, débarrassez-vous, déchargez-vous de tout fardeau et de tout péché qui nous enveloppe facilement afin de courir avec persévérance et avec endurance. Alléluia! Les 4 mouvements là, marcher, courir, prendre l'envol, nager. Si vous êtes chargé, vous allez soit couler. Imaginez, vous êtes dans un fleuve, vous voulez nager. Alléluia. Et vous avez un sac de riz sur le dos. Vous allez, les gens qui vous regardent vont vous dire, mais ça ne va pas la tête. Vrai ou faux? Ils vont vous dire, mais écoutez, vous allez couler, vous allez vous noyer. Ou alors vous n'irez pas assez facilement parce que les sacs de riz des 50 kilos vont vous entraîner vers le bas. Alors, si tu es intelligent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois passer de l'autre route et tu vas faire quoi? Tu vas te décharger de ces sacs de riz, n'est-ce pas? Et tu te dis de toute façon, de l'autre côté là-bas, il y aura un autre sac de riz. Et tu laisses et tu nages bien. Alléluia. Et tu nages bien jusqu'à ce que tu arrives à destination. Je vous ai dit, un avion, si on nous impose le poids, c'est parce qu'un avion ne peut pas décoller s'il y a surcharge. Il ne peut pas prendre l'envol. C'est pourquoi la Bible dit, rejetons tout fardeau. Alléluia. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe facilement. Nous avons parlé des soucis. Nous avons parlé des inquiétudes. Mon frère, je me répète avant d'aller dans les textes qu'on a lus pour la deuxième partie. Là. Les soucis. On a tous des soucis, n'est-ce pas? Mais Dieu nous dit, Dieu n'a pas dit qu'on n'aura pas des soucis. Dieu a dit que, la Bible est claire là-dessus. La Bible ne dit pas que nous n'aurons pas des soucis. Mais la Bible dit, venez avec vos soucis. Déchargez-vous de tous vos soucis sur moi. Qui n'a pas de soucis ici? Qui n'a pas d'inquiétude ici? Mais la Bible dit, ce n'est pas en ayant ce fardeau-là sur toi que tu vas changer quoi que ce soit. Mais c'est quand tu prends ce fardeau, tu le déposes aux pieds du Seigneur, tu lui fais confiance, tu t'attends à lui que Dieu commence à agir. Il dit, débarrasse-toi des soucis là. Le lendemain appartient à Dieu. Dites amen. À chaque jour suffit sa peine. Dis amen. Pourquoi tu vas te soucier des choses qui ne vont peut-être même pas arriver? Fais confiance au Seigneur. L'Éternel est mon berger. Il conduit mes pas. Il me dirige près des eaux paisibles. À chaque jour suffit sa peine. Le lendemain prendra soin de lui-même. L'Éternel est mon pourvoyeur. Il est celui qui pourvoit mes besoins. Et il s'appelle Jéhovah Jireh. S'il y a combat, tu te dis, l'Éternel se lèvera et combattra pour moi. Alléluia. Et il y a des problèmes, mais tu dors en paix parce que tu sais que tu as un Dieu qui veille sur toi, un Dieu en qui tu as placé ta confiance et ton espérance, et un Dieu qui agira. Donc tu t'es débarrassé d'un fardeau. Quand tu pries, tu ne peux pas prier avec des fardeaux dans les cœurs. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Les amertumes, les rancœurs, les rancunes, on les a là dans nos cœurs, c'est rempli. Il y a des gens, tu le vois à l'église un dimanche matin, il peut même te sourire, mais son cœur est dans les deuils, triste depuis des années. Tourne-toi vers le Seigneur et dis-lui, Seigneur, je sais que c'est toi qui m'as appelé à toi. Je te donne ma vie, je t'ai donné mon cœur. Ma vie dépend de toi. Je m'abandonne à toi. Entre tes mains, conduis-moi où tu veux me conduire. Je me décharge. Alléluia. Je veux la paix. Je veux la joie, Seigneur. Remplis mon cœur et de joie et de paix pour que je cours. Vous savez, quand quelqu'un court avec joie, il court, alors il court. Alléluia. Alléluia. Et dit, débarrassez-vous de tout fardeau. Certains fardeaux, c'est parfois des mauvais amis qu'on a. Dites amen. Il y a des amis qui sont comme des fardeaux pour toi. Chaque fois que tu veux courir vers l'avant, ils te tirent vers l'arrière. Quand tu as compris ça, débarrasse-toi de ces gens-là. Ils deviennent un fardeau pour toi. Tu ne sais plus courir, tu ne sais plus prendre l'envol. Tu ne sais plus marcher convenablement, tellement ça pèse. Il y a 10 qui te tirent par là, 10 qui te tirent par là. Chaque fois que tu veux faire un pas, dans ta vie chrétienne, tu sens vraiment qu'il faut te battre pour faire les moindres petits pas. Parce qu'il y en a qui tirent là-bas et tu es là. Et ben moi, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Quand tu entends ça, coupe pour que tu sois pépélé. Alléluia. Et que tu cours. Rejetons le fardeau. Rejetant le péché. Voyez, j'ai parlé de ces quatre choses. Que la vie chrétienne est une marche, c'est une course, c'est un envol, c'est une nage. Vous savez, quand Paul a embarqué dans un bateau pour aller comparaître devant César, il y a eu la tempête. Terrible. Acte 27. À un moment donné, les gens se sont dit non. Nous devons, pour aller plus vite, alléger les bateaux. Ils ont commencé à jeter dans la mer tout ce qu'il y avait comme sac de je ne sais quoi, de farine ou de quoi, dans la mer, pour que le bateau soit allégé afin qu'il aille un peu plus vite. C'est des choses que la Bible nous enseigne. Mais nous, mes bien-aimés frères et sœurs, nous venons à l'église. Nous sommes chrétiens. Nous disons que nous sommes dans une marche, que nous sommes dans une course, que nous avons pris l'envol, que nous nageons. Mais ce que nous traînons comme fardeau ne nous permet pas d'aller loin. Or, il y a un lieu où Dieu a disposé ta bénédiction. Tant que tu n'atteindras pas ces lieux-là, alléluia, tu seras en train de gémir, de pleurer, de crier, mais Dieu a déjà préparé des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui sont préparées quelque part comme Dieu avait préparé pour Abraham, les béliers retenus par les corps. Mais il fallait d'abord qu'Abraham arrive à ces lieux-là. Rejetons les fardeaux. Dites amen. Quel est ton fardeau? Tu as de la haine vis-à-vis de quelqu'un? Écoute-moi bien. Tu t'es fait du mal à toi-même parce que tu mettras des années avant de comprendre que ta bénédiction n'est pas loin de toi, mais tu n'avances pas suffisamment parce que il y a un poids énorme qui est sur toi. Allège ta vie. Dis, Seigneur, non, j'abandonne ça entre tes mains. Moi, je veux simplement courir jusqu'au bout. Je veux m'engager dans cette course jusqu'au bout. Seigneur, je me décharge, je me débarrasse. Alléluia. Je rejette le fardeau, je rejette le péché. En d'autres termes, le péché nous alourdit. Voyez, la Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Non seulement nos péchés nous cachent la face de Dieu, mais aussi les péchés nous alourdissent dans notre course. Quand est-ce que tu arriveras à la ligne d'arrivée? Alléluia! Moi, je veux courir aussi vite que possible. Course d'endurance et de persévérance pour arriver au lieu où la bénédiction que Dieu a préparée m'attend. Dans le deuxième texte, 1 Corinthiens chapitre 9, la Bible compare la vie chrétienne à un combat. Amen. Écoutez. Ce n'est pas simplement une course. Ce n'est pas simplement une marche. Ce n'est pas simplement un envol. Ce n'est pas simplement une nage. La vie chrétienne est aussi comparée à un... Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent, nous avons déjà parlé de la course, qui courent dans les stades, courent tous. Mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à remporter le prix. Là, on a déjà parlé de la course. Verset 25, il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne, une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne, pour une couronne. Il dit dans ce verset 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. La vie chrétienne est aussi un combat. Alléluia. Ailleurs, Paul dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est une lutte. Oui, la vie chrétienne n'est pas une promenade de santé. Je deviens chrétien et puis c'est tout. Alléluia. Quand j'ai besoin de guérison, guérison vient au nom de Jésus. Elle est là. Quand j'ai besoin d'argent, argent vient au nom de Jésus. C'est un combat. Alléluia. C'est une lutte contre les dominations. Les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes, les puissances du mal, alléluia, c'est un combat. Ce n'est pas simplement une course, une marche, c'est aussi un combat. Et dans ce combat-là, les autorités, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes ne te feront jamais des cadeaux. Je parle à quelqu'un. C'est un combat sans merci. Tu combats, tu gagnes, parce que Jésus est avec toi. Tu ne combats pas, le puissant des ténèbres t'écrase, te bloque et tu ne vois rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Certaines de nos bénédictions ne nous arriveront jamais si nous ne nous levons pas pour combattre. Parce que c'est ça la vie chrétienne. C'est un combat. Rappelez-vous de Daniel, il priait pour recevoir la révélation concernant son peuple. Le roi des Perses est venu s'arrêter devant l'ange messager. Et Daniel a continué à combattre dans la prière et dans les jeûnes pour que Dieu dépêche l'ange guerrier Gabriel pour que les deux amènent la révélation à Daniel. C'est un combat. Alléluia. Et la Bible dit ceci, hein. J'aime beaucoup ce texte. La Bible dit, ceux qui combattent, évidemment Paul quand il écrit ça, il fait allusion aux luttes grecques. Vous savez, c'est un peu ce que nous voyons aujourd'hui dans les Jeux Olympiques. Amen. Où les gens font la lutte là, ils tournent comme ça. Hein? On mettait une espèce juste de... des pagnes là, et puis on était là pour combattre. Et puis quand quelqu'un te prenait, te mettait dans une position là, et tu tapais pour dire, hé, hey, terminé. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le catch américain. C'est un peu du spectacle, mais il y a de ces prises là, quand on t'a mis dedans, c'est sans pitié. D'ailleurs, eux-mêmes disent, n'essayez pas de faire ça à la maison. Parce que vous pouvez vous briser le cou ou la colonne vertébrale. Mais eux, ils sont habitués. Je parle à quelqu'un. C'est une lutte. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? Il dit ceux qui combattent. Vous savez ce qu'ils font? Ils s'imposent toutes sortes d'abstinences. Alléluia. Ils s'imposent toutes sortes d'abstinences au verset 25. Et au verset 27, il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Deux choses. S'imposer toutes sortes d'abstinences et traiter son corps durement, ces deux phrases-là signifient en une seule phrase, la vie chrétienne est une vie de discipline. Comme les lutteurs que nous voyons là. C'est des gens de discipline. C'est des gens qui mènent une vie de discipline. Quand nous regardons les matchs à la télévision, nous voyons ces jeunes filles-là qui deviennent numéro un mondial, qui gagnent des millions. Il y a des gens qui disent, ah, des millions comme ça, juste pour jouer. Vous ne savez pas quelle vie de discipline elles mènent. Si toi et moi, on nous dit 6 heures d'entraînement par jour, élevé à 4 heures du matin, nous allons dire ça c'est trop. Mais c'est ce qu'elles font, vrai ou faux? C'est une vie de discipline. La Bible dit, c'est lui, le chrétien qui sait que la vie chrétienne est un combat, doit apprendre à vivre une vie de discipline. Il s'impose toutes sortes d'abstinences, c'est-à-dire il doit traiter son corps durement. Il doit se priver parfois des heures de sommeil. Il doit se priver parfois des repas. Parce qu'il sait que sa victoire passe par là. Alléluia! Vous savez, il y a très peu de gens qui peuvent dire, je me leverai tous les jours à 7 heures du matin pour prier. À 7 heures du matin, il a même parfois mis le réveil. Le réveil sonne. Il tape sur le réveil. Et vous savez, il y a des réveils qui ont le système de répétition. Et il te répète, tu dis, tais-toi. Et tu continues à dormir. La vie chrétienne est un combat. Si tu ne combats pas, l'ennemi t'écrase. Ça veut dire une vie de discipline. Et quand, comme la Bible nous dit que certains types de démons ne peuvent partir que par le jeûne et la prière, certains problèmes ne peuvent être résolus que par le jeûne et la prière, quand j'ai décidé de jeûner, alléluia, J'ai dit à mon corps à 15 heures qui me dit non, on doit manger. Je lui dis tais-toi. Je traite mon corps durement parce que je sais que je suis dans un combat. Il n'y a aucun boxeur qui va monter sur le ring après avoir mangé un morceau de foufou comme ça. Il n'y a aucun cycliste qui va faire le Tour de France après avoir mangé, je ne sais pas moi, 2 kilos de riz. Jamais. Vous allez voir leur régime alimentaire, c'est des pâtes, c'est léger. Parce qu'ils savent qu'il y a une longue distance à courir, ils s'imposent toutes sortes d'abstinences. Ils traitent leur corps durement. Pourquoi ? Pour bien courir dans l'endurance, franchir la ligne d'arrivée, être le premier à gagner l'étape, être le premier à franchir la ligne d'arrivée pour saisir la coupe. La Bible dit, regardez ces gens, ces païens-là. Je parle à quelqu'un ? Les païens font ces choses pour avoir une petite couronne qui un jour on va oublier, qui va passer. Il dit, les lutteurs grecs là, quand ils montaient sur le ring, même pendant, mais vous savez, mes frères et sœurs, avant qu'ils ne montent sur le ring, ils passent des temps d'entraînement. Ils s'imposent un régime alimentaire strict. Alléluia. 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 Quand nous nous disons, je vais prier la nuit, écoutez, il ne faut pas commencer à chasser les démons si, au moment où vous devez prier la nuit, vous êtes très fatigué. Pourquoi ? Écoutez, vous dormez tard. Je vais prendre des choses terre à terre. Un chrétien, c'est quelqu'un qui se dit, je me mettrai au lit à telle heure. Pourquoi ? Pour être frais, de telle manière que, quand le réveil va sonner. D'ailleurs, il y a des gens qui... Moi, je n'aime pas les réveils. Quand je me lève avec un réveil, j'ai mal à la tête. Je dis simplement à mon esprit, et à... je dis, Seigneur, je voudrais me réveiller à telle heure. C'est comme si j'avais programmé ça dans mon esprit. À quelques minutes près, je me réveille. Parce que le réveil me fait mal à la tête. Alléluia. Tu dors tôt. Le soir, tu manges quand même un peu léger. Tu n'es pas dans un pays où demain tu ne vas pas manger. Je parle à quelqu'un. Mais le problème c'est lequel? C'est qu'on n'a pas de discipline. On mange comme si demain il n'y aura plus à manger. Je peux comprendre dans les pays d'Afrique. Quand je vais dans les pays d'Afrique, j'observe les gens comment ils mangent. Je me dis, je les comprends quelque part. Mais ils ne comprennent rien. Parce qu'il peut manger autant qu'il veut. Il ne peut pas faire des réserves pour demain. D'ailleurs, plus vous mangez trop le soir, plus demain vous aurez faim. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez chargé votre estomac. Il a beaucoup plus travaillé pour la digestion. Il est fatigué, donc il a faim. C'est un principe simple. Et ces gens-là, quand ils vont à manger, ils mangent. Vous regardez comme ça, vous dites, ça c'est le repas que nous, en Europe, on va mettre sur une table de 6 personnes. Mais lui ou elle, alléluia, il transpire, il enlève comme ça, il continue. Tu regardes comme ça, alléluia, et puis tu t'étonnes, il n'y a plus rien. Bon, une telle personne, mes bien-aimés frères et sœurs, demandez-lui la nuit de se lever pour la prière, demandez-lui de venir à la veillée. Demandez-lui de venir le dimanche matin. Vous voyez, quand, même à certaines fêtes, mes frères et sœurs, tu sais, parfois ta présence n'est pas utile jusqu'à 6 heures du matin. Vrai ou faux? Tu fais quoi là à la fête? Jusqu'à 6 heures du matin. Comme ça, simplement parce qu'il y avait les massolos, il y avait des causeries, des conversations. Il est emporté. Et puis le dimanche, comme il sait quand même, bon, le pasteur a toujours insisté de venir au culte, tu le vois là. Et puis, quand on chante, lui aussi fait ça, il dort. Et puis, à un moment donné, comme on ne peut pas jouer avec le sommeil, tu le vois qui fait ça. Si tu le réveilles, il dit Alléluia! Alléluia! Amen! Une vie de discipline, dites une vie de discipline. Parce que la vie chrétienne est un combat. Si je veux être frais contre les puissances des ténèbres, comment voulez-vous que je mène ma vie? Voyez pourquoi, mes frères et sœurs, j'entends beaucoup de polémiques. Ah oui, où est-ce qu'on a interdit de boire? Où est-ce qu'on a interdit de fumer? Vous savez, la Bible dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Si quelque chose ne me permet pas de me constituer spirituellement, on n'a pas besoin de me dire de laisser ça. Je vais laisser ça. La tentation vient, mais je dis, je ne te bois pas vers bière. Regarde-moi. Je te regarde aussi, je ne te bois pas. Est-ce que la bière va te forcer? Quand nous buvons, c'est parce que nous voulons. N'est-ce pas? Quelqu'un m'a dit, oh pasteur, j'ai bu parce que cette bouteille vraiment me regardait. Mon épouse est témoin. Quelqu'un m'a dit ça devant mon épouse. Il m'a dit, pasteur, j'ai bu. Cette bouteille me regardait, c'est comme si elle me disait, bois-moi, bois. J'ai dit, jamais. Alléluia. Je traite mon corps durement parce que je sais que je suis dans un combat. La Bible dit, oh Dieu, exerce mes mains au combat. Il faut que tu viennes t'exercer. Vous savez, quand la Bible dit exerce mes mains au combat, ce n'est pas que le combat est déjà là. Je m'exerce avant pour qu'au moment du combat, je sache tirer l'arc. Alors, même si je ne traverse pas de problèmes, on dit il y a jeûne et prière à l'église, je viens. Je m'exerce au combat. Quand le moment de l'attaque viendra, je suis déjà exercé. Alléluia! Je me lève et je ne donne pas de coup en l'air. Quand je donne un coup, oh, l'ennemi sent que cela atteint. Alléluia! Je ne me bats pas comme quelqu'un au nom de Jésus, de bras en l'air, au nom de Jésus dans le vide. Vous savez, quand tu n'as pas fait d'entraînement, monte sur un ring, même si tu es le meilleur, tu vas recevoir un coup. Hein? Alléluia! L'autre, il a eu un sparring partner. Hein, quelqu'un qui l'entraîne, il tape, il fait ça. Il a appris, ok? Toi, tu es en train de venir seulement comme ça. Tu dis, moi, je n'ai pas besoin d'entraînement. Tu entres, hein, tu lances, lui, il fait ça. Quand il te donne là, tu te retrouves par terre. Tu n'as pas exercé tes mains au combat. La vie chrétienne est un combat. L'apôtre Paul dit, je m'impose toutes sortes d'abstinences et je traite mon corps durement. C'est-à-dire, je m'impose un certain nombre de règles de vie, un certain nombre de principes de vie. Je me prive de certaines choses. La Coupe du Monde vient de commencer. Alléluia. Celui qui a une vie de discipline, quand il a dit, je prierai à 20h30, Brésil-France, 20h30. Je parle à quelqu'un? Vous allez voir. J'avais fait un jour l'erreur. J'étais encore frère, pasteur, mais on m'appelait encore frère, dans l'une de nos églises au Congo. C'était, je crois, la finale de la Coupe d'Afrique, ou un match, en tout cas, de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Congo jouait contre le Cameroun. Je ne sais plus en quelle occasion. Mes frères, j'ai fait l'erreur de programmer une réunion de prière. Tous les hommes n'étaient pas là. La Bible dit, je me prive. S'imposer des abstinences, ça signifie que je me prive même de certaines choses. Il y a un match à la télé, c'est une vie de discipline. J'ai dit 20h30, c'est le moment de la prière. Mes frères et sœurs, vous savez, un match de football, vous allez le regarder 10 000 fois. Vous pouvez le regarder sur Internet. Vous avez des télévisions digitales, je ne sais combien. Vous pouvez même enregistrer. Vrai ou faux? On nous a même facilité la tâche. Donc, quand je dis je m'impose toutes sortes d'abstinences, ça veut dire que je me prive même de certaines choses parce que j'ai compris que c'est une vie de combat. Je dois exercer mes mains au combat. Je dois être prêt pour combattre. Je dois être prêt. Alléluia. Je suis en entraînement. Quand je suis là dans la prière, je m'entraîne, je prie. Quand l'ennemi vient au devant de moi, l'Esprit du Seigneur m'a rempli. Il le met en déroute. Je crie victoire au nom de Jésus-Christ. Mais regardez comment nous vivons. Aucune vie de discipline. On boit comme on veut. Alléluia. Quand je parle de bois, je ne parle pas que de bière. Je parle aussi de boissons sucrées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, mais dites un bon amen. Il y a des gens quand ils prennent les coca là. Vous vous avez vu la quantité de kilocalories qu'il y a dans ces histoires-là? Il boit les jus à longueur des journées. Et des boissons sucrées. Je préfère encore un jus d'orange frais. Dites amen. Je sais, il y a des gens qui me disent vraiment, les pasteurs nous disent tout ça. Mais écoutez, c'est mon rôle de nous éduquer. Parce que je sais, à cause de ça, vous savez, le sucre se transforme en quoi dans le corps? En graisse. Trop de sel. Vrai ou faux? Après, on a des histoires de palpitations. Vous savez, quand je vois certaines personnes, ils prennent une petite tasse de café ou de thé comme ça, avec 4 cubes de sucre. Je me dis, mais il est en train de s'empoisonner. Mais il vous dit, pasteur, moi, soit Ezasukali, Yamakasi, ou bien Ezate. Ou bien c'est trop sucré, ou bien c'est rien. Or, comme il ne peut pas prendre avec rien, il doit prendre 4, 5 cubes. Il les met tout. Et tu vois le niveau de le niveau du café qui monte. Hein. Chaque fois qu'il met un cube, tant, ça monte, tant. À un moment donné, ça déborde un peu. Et il boit ça, il te dit, c'est ça, c'était du bon café. C'est une vie de discipline. Dites amen. Il dit, je traite durement mon corps. Je l'assujettis. C'est-à-dire, je le tiens dans la discipline. Vous savez, le corps va demander quoi? Pourquoi est-ce qu'il faut les traiter durement? Parce que le corps a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ton corps te dira, impudicité, voilà l'homme, voilà la femme. Si tu ne les tiens pas assujettis, si tu ne les traites pas durement, il va t'entraîner à la perdition. Alors il dit, comme c'est un combat, alléluia, je traite mon corps durement. Il me dit, donne-moi ça. J'ai dit, je ne te donne pas ça. Pourquoi? Parce que quand je suis spirituellement fort, c'est ça la véritable force. Les gens que vous voyez avec des muscles là, comme ça, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il peut faire face à un petit démon de rien du tout? Un petit démon vient, il les tape, il les tabasse. Mais nous autres là, tu nous vois petits, frère. Alléluia! Alléluia! Quelqu'un te regarde comme s'il dit, ah, ça c'est un petit. Ok, attends, sur le plan spirituel maintenant. Un costaud de démon vient, je lui dis simplement, au nom de Jésus, il tombe. Alléluia! Pourquoi? Tu vas t'étonner, tu dis, ah, il a l'onction. Frère, l'onction, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Tu traites ton corps durement. Tu le tiens assujetti. Alléluia! Tu t'imposes toutes sortes d'abstinences. Alléluia! Tu n'as pas besoin qu'on me dise, boire, c'est un péché. Pourquoi? Quand je bois, je commence à devenir groggy là. Alléluia. Vrai ou faux? En ce moment-là, tu reçois un coup de fil, pasteur, viens prier pour moi. Je viens là chez toi. Dès que j'ouvre la bouche, au nom de Jésus, tu sens l'alcool. Tu auras confiance en moi. Je dis à l'alcool, tais-toi. Je dis à la chair, tais-toi. Je traite mon corps durement. Le jour où je dis jeûne, mon corps réclame à 16h30. J'ai dit, c'est jeûne. Je t'ai dit jusqu'à 18h après les services à 20h30 ou 21h. Dites amen. J'ai déjà vu des gens prévoir des bananes ici, déjà. Il a amené ses bananes. J'ai dit, c'est pas mauvais. Alléluia. Pourvu qu'il a tenu jusqu'au bout. Alors, dès qu'il sort là, prends sa banane. Pour dire au corps, attends maintenant, attends. Alléluia. Mais pourvu, il a tenu jusqu'au bout. Il a tenu. Il a tenu. Parce que c'est un combat. Oui, ce n'est plus une vie que nous menons comme on veut. Au hasard, tu sais que tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Et dit, ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences. Ils traitent leur corps durement. Vous allez remarquer un boxeur sur le ring, la plupart des temps, il cache la tête. Vrai ou faux? Il laisse ça. Vous savez, un boxeur, quand tu tapes là, c'est déjà devenu dur à force de recevoir des coups là. Il s'est exercé. Mais c'est surtout là parce qu'il sait que c'est là que ça se dérègle. Quand le coup est trop fort, le cerveau dit, je tombe ou je tombe pas. Il ne sait plus quoi. Il dit, non, je tombe, c'est plus facile. Et il tombe. Alors, ils ont tendance à protéger la tête. Mais le reste, ils montent sur le ring. Parfois, ils sautent à la corde pendant 2 heures. Il fait ça. Pendant 2 heures d'affilée. Quand nous disons aux chrétiens, on va tenir 1 heure dans la prière, tu entends ceux qui ont commencé là-bas. Alléluia, 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 alléluia. 20 minutes plus tard, ce n'est pas mauvais. La fois prochaine, commence, alléluia, alléluia, alléluia. Et tu as dépassé 30 minutes. Tu vas voir 1 heure, 2 heures, 4 heures, tu es en prière. Vous savez, un jour, l'apôtre Massasou nous disait, lui, il est allé à une veille de prière avec prétention. C'est disant, ouf. Il dit, il arrive là-bas. Les gens qui priaient, il y a des gens avaient un genou par terre comme ça, ils priaient. 1 heure, 2 heures, il dit, après 45 minutes, eux, lui n'avait même plus rien, quoi dire. Mais ces gens-là, ils étaient là. Ils priaient jusqu'au matin. Il les regarde, il dit, mais c'est quoi ça? Alléluia, c'est l'exercice. Traite ton corps durement parce que tu es dans un combat. La vie chrétienne est un combat contre les puissances qui veulent te nuire, détruire ta famille, détruire ta vie. Et toi, une vie sans discipline, tu dors quand tu veux, tu manges tout ce que tu veux, n'importe où, n'importe quand. Même sur le plan purement sanitaire, le plan de ta santé propre, c'est mauvais, mais tu n'as pas compris cela. Tu t'es dit, oh non, ici on est en Europe, c'est le pays de démocratie. La démocratie ne veut pas dire manger n'importe quoi. Traite ton corps durement. Alléluia. Traite ton corps durement. Assujettis-le. Parce que tu sais que quand tu tiens ton corps, tu n'accomplis pas les désirs de la chair. Tu n'obéis pas à la chair, tu élèves l'esprit. Et quand l'esprit est fort dans les combats contre les puissances des ténèbres, tu as la victoire. Dites amen. Dites un bon amen. Nous ne voulons pas des chrétiens qui sont perdants. Mais pourquoi nous perdons? Parce que nous croyons que la vie chrétienne, c'est au nom de Jésus. La bénédiction est là. Je peux manger, dormir quand je veux, faire ce que je veux. Je n'ai pas de vie de discipline. Je ne traite pas mon corps durement. Je ne le tiens pas assujetti. Je ne m'impose aucune abstinence. Vous savez, même quand vous êtes marié à des moments, il y a de l'abstinence, des choses légitimes, parce que vous devez vaquer à la prière et au jeûne. Dites amen. Je n'aime pas une église où les gens ne sont habitués qu'aux bénédictions et aux miracles. Votre bénédiction, votre miracle peut être là. Le diable bloque. Vous allez faire quoi? Comment vous allez l'arracher, arracher cette bénédiction? Je ne parle pas d'arracher comme les gens disent. Arrache, arrache. On n'arrache pas la bénédiction des mains de Dieu. Non. Si Dieu vraiment ferme une bénédiction, qui va l'arracher? Nous allons prendre chez Satan, les donne. Mais comment tu vas prendre ça si tu ne comprends pas que tu es dans un combat? Alléluia. Écoute-moi bien. Toutes les puissances des ténèbres savent que tu es dangereux. Tu es recherché dans les royaumes des ténèbres. Alléluia. Toutes ces puissances-là travaillent contre toi et moi. Si nous n'avons pas compris que nous sommes engagés dans ce combat-là, nous sommes en train de vivre comme nous voulons, en train de faire ce que nous voulons faire. On reste à la télé, football, Coupe du Monde. D'ailleurs, il y en a qui doivent me dire, pasteur, là, il est à peu près 13h30, le match de l'Algérie va commencer. Pasteur, quand est-ce qu'on va terminer les cultes? Écoutez, moi, je ne suis pas venu ici pour des matchs de football. Dites amen. Vous irez voir après. Le temps de la prière. Dites amen. Le temps du jeûne. Je tiens mon corps assujetti parce que la vie chrétienne est un combat. Voyez, même dans ces combats-là, il faut être déchargé. Alléluia. Aucun boxeur ne peut monter sur le ring, n'est-ce pas? Et puis, il a un sac de farine, de semoule sur le dos. Et puis, on va dire, mais ce type est fou.